Aujourd'hui, dans Parlons Ferme, nous recevons un expert, en fait, professeur titulaire en droit international économique à la faculté de droit et à l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval à Québec. Il est aussi avocat et il est aussi docteur en droit. Richard Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et en fait, on s'était déjà parlé il y a quelques temps dans une quotidienne et on a pensé à vous parce qu'évidemment, il y a beaucoup de turbulences actuellement dans nos relations avec nos voisins du Sud.
Oui.
Ça en inquiète plusieurs parmi les producteurs et en fait, on essaie de comprendre un petit peu la situation. Alors, on sait, résumons, Trump est arrivé au pouvoir le 21 janvier dernier de façon officielle. Dans un premier temps, est-ce que vous attendiez un tel chambardement et une telle remise en cause du libre-échange?
En fait, il fallait s'attendre à ce que Donald Trump passe un peu à l'attaque. J'avoue que je suis un peu surpris par la rapidité et la virulence à laquelle il attaque ses partenaires commerciaux. Mais quand on observe bien sa stratégie et quand on relit son programme électoral, je pense qu'il ne faut pas trop être surpris parce que Donald Trump fait ce qu'il avait annoncé. Mm-hmm. En fait, Donald Trump n'est pas content des termes de l'accord de libre-échange qu'il a avec le Canada et le Mexique. Et il veut revoir cet accord-là. Maintenant, la révision de l'accord de libre-échange, qu'on appelle l'ACEUM, accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM.
Oui, qui normalement est renégocié qu'en 2026.
C'est ça. Normalement, cet accord-là est renégocié en juillet 2026. Puis on verra le temps que ça prendra. Mais cette date-là, juillet 2026, c'est trop tard pour Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump... le parti de Donald Trump fait face à ce qu'on appelle les élections de mi-mandat aux États-Unis à l'automne 2026. Les élections de mi-mandat, c'est quoi? Ce sont des élections où on réélit tous les représentants, les 435 représentants à la Chambre des représentants, donc une des deux chambres du Congrès des États-Unis, une des deux chambres du pouvoir législatif. On réélit un tiers des sénateurs. Et on réélit les deux tiers des gouverneurs. Les gouverneurs, c'est un peu l'équivalent des premiers ministres provinciaux ici. Donc, chaque État, chacun des 50 États sont gouverneurs et on les réélit tous. Et les élections de mi-mandat, traditionnellement, ça va pas bien pour le parti du président. Les Américains, souvent, aux élections de mi-mandat, vont voter pour l'autre parti, le parti qui n'est pas le parti du président. Et donc, Donald Trump, ce qu'il a en tête, parce que pour lui, les élections sont extrêmement importantes, hein, Dieu sait qu'il veut protéger son pouvoir, il veut donc des résultats. Il veut avoir changé l'accord de libre-échange avant les élections de mi-mandat.
Donc en fait, la virulence actuelle qu'il nous présente, en fait, c'est une façon d'accélérer la négociation. En fait. Ce qu'il veut, c'est nous amener à la table de négociation plus vite.
Exactement. Il veut qu'on aille à la table de négociation plus vite. Puis idéalement, si on pouvait aller à la table de négociation à la demande du Canada, ce serait donc parfait. Parce que, comme on le sait, quand quelqu'un demande une négociation, on se place toujours un peu dans une position de faiblesse. Là, c'est toi qui es le demandeur, donc c'est toi qui as besoin. Alors, c'est pour ça qu'il attaque et qu'il attaque aussi durement et qu'il attaque aussi vite. Donc, pour répondre un peu finalement à votre question... C'est surprenant, mais quand on regarde sa stratégie, c'est pas si surprenant que ça.
Puis la game va changer très radicalement, parce qu'on a vu il y a quelques jours Brooke Rollins, qui était la secrétaire de l'USDA, qui a été nommée, qui semble avoir un discours de « je renverse la table ». Donc, on va pas dans la dentelle dans ce qui se présente. Est-ce que dans les relations qu'on a avec les États-Unis, on entend certains hommes politiques nous dire on va leur appliquer la même chose, les tarifs douaniers qu'on va leur mettre sur la tronche à eux aussi. D'un autre côté, on en voit certains ressortir comme Philippe Couillard ou son collègue Jeff Mahon qui dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire quoi en fait face aux États-Unis?
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas le choix de riposter. Pour une raison très simple, c'est que Donald Trump et son administration comprennent un langage, c'est le langage de la force. On le voit dans d'autres exemples. Si je donne un petit exemple rapide qui n'est pas du tout un exemple commercial, la renégociation en Ukraine pour arrêter la guerre entre les Russes et l'Ukraine.
Oui.
Les Américains ne veulent même pas que l'Union européenne soit présente à la table. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'est pas assez puissante militairement. Alors, c'est le langage de la force. Si tu n'as pas une puissance, tu n'es pas un interlocuteur intéressant. Alors, pour Donald Trump, il faut leur montrer que commercialement, ils ont besoin de nous. Il faut aussi montrer au président qu'il a tort. Parce que le président des États-Unis dit régulièrement, on n'a pas besoin de ce que le Canada a à vendre. On n'a pas besoin d'eux. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Ils ont besoin de notre bois, ils ont besoin de notre aluminium, ils ont besoin de notre électricité, ils ont besoin de l'acier, ils ont besoin du pétrole de l'Ouest canadien, ils ont besoin de nos ressources naturelles, les minéraux. Ils ont besoin de tas de choses qui viennent du Canada. Donc, faut lui montrer qu'il a tort. Faut lui montrer, faut parler le langage de la force. Puis l'autre raison pour laquelle il faut riposter, c'est qu'il faut montrer que nous aussi, on peut arriver à la table de négociation avec des demandes.
Mais est-ce que tout à l'heure, vous avez dit, ça plairait, ce que je crois comprendre, c'est que ça plairait beaucoup à Donald Trump que le Canada demande d'aller en table de négociation avant l'été 2026. Est-ce que vous nous dites que finalement, c'est une des solutions pour sortir de la crise?
Faut pas y aller. Faut pas aller à la table de négociation pour sortir de la crise. Pour une raison, une autre raison extrêmement simple à mon avis, c'est que Donald Trump ne respectera pas l'accord de toute façon. Arriver avec un nouveau contrat, un nouvel accord avec les États-Unis, c'est pas un gage de prévisibilité. Ça arrêtera pas l'incertitude. C'est l'expression que j'aime dire à mes étudiants en classe, c'est l'encre de son gros crayon feutre noir là sera pas encore sèche au bas de l'accord. Que déjà, il va nous parler d'une nouvelle menace. Ouais. On l'a vu quand il a parlé de fentanyl, puis de contrôle des frontières, puis le Canada a fait ce qu'il a demandé, mais les États-Unis n'ont pas appliqué les tarifs, mais il n'a pas dit « ça va, je suis satisfait, il n'y aura pas de tarifs ». Il nous a annoncé un sursis de 30 jours. Donc, c'est signe qu'il veut toujours arriver avec de nouvelles demandes, de nouvelles négociations, de nouvelles revendications. Et donc, moi, je pense qu'avoir un nouvel accord avec les États-Unis renouvelé, c'est pas du tout un gage de sécurité.
Dans le cadre justement de cet accord de 2026, on sait que dans le cadre de l'ACEM, ce qui a été, ben, on va dire, certains diront non pas protégé, mais en partie quand même protégé encore, c'est la gestion de l'offre. C'est ce qui fait peur aux producteurs canadiens, que ça nous échappe. D'un autre côté, on a vu Howard Lutnick, secrétaire au commerce, qui est sorti récemment pour dire ben, finalement, les producteurs canadiens font mal aux producteurs américains. Donc, on sent déjà quand même, on sent toujours qu'on est sur cette tendance-là de revenir à la taxe sur la gestion de l'œuf. Est-ce que c'est ça qui va arriver, selon vous?
Ça fait partie des choses que les États-Unis vont demander. Ça me semble tout à fait évident. Je pense que le président des États-Unis a été assez clair. Il en a parlé souvent de nos tarifs sur les produits laitiers. Il parle surtout du lait. Il parle peu des autres systèmes de gestion de l'œuf. Il parle du système de gestion de l'œuf dans le secteur laitier. Et il a gagné ses élections, entre autres, grâce au Wisconsin. On sait que c'est au Wisconsin qu'il y a la plus forte capacité de production laitière qui pourrait entrer au Canada. Et donc, il va vouloir renvoyer l'ascenseur au Wisconsin. Donc, ça me semble évident que le jour où on s'assoit à la table de négociation avec les États-Unis, la gestion d'offres est sur la table, puis il va falloir se battre.
Là, on regarde les différentes étapes qui se passe. Bon, on voit la nouvelle secrétaire d'agriculture qui est assez radicale. On voit qu'en Europe, ça bouge au niveau du syndicalisme agricole où il y a des syndicats qui prennent du pouvoir sur le syndicat majoritaire. On dirait que ça bouge un peu partout dans le monde. Au Québec, c'est pas mal le statu quo. Est-ce que c'est normal?
Au Québec, on est un peu... moi, je trouve qu'on connaît pas la chance qu'on a. C'est-à-dire que on se rend pas compte des choses. L'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, ce sont des débats qui ont énormément gagné en importance un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Vous avez mentionné l'Europe avec raison, vous avez mentionné les États-Unis avec raison. Faut savoir que c'est le cas aussi en Inde, c'est le cas dans beaucoup de pays, beaucoup de régions du monde. Et ici au Québec, moi, il y a un élément qui me fatigue beaucoup, c'est le consommateur. On n'a pas assez parlé au consommateur pour lui faire comprendre l'importance de consommer les produits d'ici, les produits de son voisin, les produits de celui qui est à côté de chez lui et qui le fait vivre. Et je trouve qu'on a été... On est mou de ce point de vue-là au Québec, à mon sens.
Vous avez dit tout à l'heure que, en fait, la gestion de l'œuf serait certainement à risque dans la future négociation. On sait que la gestion de l'œuf, c'est des tarifs douaniers, ni plus ni moins. Est-ce qu'on est en mesure, selon votre vision, là, de sauver la gestion de l'œuf alors qu'on demande systématiquement aux Américains de ne pas mettre de tarifs sur ce qu'on leur envoie?
Ouais, ben ça va être compliqué. C'est sûr que Faut voir quelles seront les demandes des États-Unis. Le système de gestion de l'offre, tel qu'on l'applique ici, là, maintenant, on commence à être les seuls à appliquer un système de ce type-là, qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Je pense qu'il faut être honnête pour ça, là. C'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Nous, c'est un choix de société qu'on a fait ici. Est-ce qu'il faudra le regarder? Est-ce qu'il faudra le modifier? Est-ce qu'il va résister à la négociation avec les États-Unis? Bien malin est celui qui pourrait répondre à toutes ces questions-là, mais c'est sûr que je pense que c'est un système qu'on pourrait. Je suis pas en train de. Entendez-moi bien, là, je suis pas en train de dire qu'il faut le démanteler, mais c'est peut-être un système qu'il faut garder. C'est peut-être un système où il faut se dire bon, ben qui profite vraiment, qui a les revenus les plus stabilisés, quels sont les véritables effets sur l'industrie agroalimentaire.
Mais il y a eu des courants, l'histoire de la gestion de l'œuvre 2.0, il me semble. Écoute, je me rappelle de l'Union paysanne, on en a parlé il y a quasiment 20 ans. Sylvain Charlebois est venu à quelques reprises sur l'évolution, l'Institut Jean Garon même a parlé de modernisation de la gestion de l'œuvre. Des courants de « on doit moderniser la gestion de l'œuvre », ça s'est dit depuis 10, 15, 20 ans. Ça ne s'est pas forcément fait. Est-ce qu'on est arrivé à la croisée des chemins et que finalement, à ne pas moderniser, on va payer cher?
C'est possible. Vous savez, on dit des fois, à propos de Donald Trump, on dit « Ah, on aurait dû diversifier nos marchés d'exportation, puis ça fait 25 ans qu'on le dit, puis on ne l'a pas fait. » Puis là, finalement, c'est Donald Trump qui va nous forcer à le faire. Peut-être qu'il va arriver la même chose avec la gestion de l'offre. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on se dit « faut la regarder, faut être sûr de la mettre à jour, faut être sûr de la moderniser. » Puis on le fait pas. Puis peut-être que c'est Donald Trump qui va nous forcer à faire la mise à jour. C'est pas du tout impossible. Ce que vous évoquez là me semble tout à fait possible.
Concernant les menaces impérialistes, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine, justement, je voulais vous parler un petit peu de ça. On a vu aussi Trump nous parler de visée impérialiste, qu'il avait au début, c'est parti sur le Groenland, le canal du Panama. On sait que les États-Unis, de toute façon, je pense pas me tromper en disant que ça a toujours un petit peu fait partie d'une vision américaine, sauf que ça n'a jamais été exprimé de cette façon-là. Puis là, c'est rendu qu'on nous parle d'annexer le Canada, du moins économiquement. Oui. D'abord, est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose d'ancré avant Trump dans la théorie américaine? Ou c'est vraiment Trump qui a inventé ça hier matin?
C'est-à-dire que la réponse est peut-être quelque part entre les deux. C'est-à-dire que il y a eu des époques sous le président McKinley, entre autres, où on avait des visées expansionnistes, on avait l'idée d'acheter des territoires, de grossir le territoire des États-Unis. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains n'ont jamais eu cette volonté-là là, d'annexer géographiquement des territoires. Ce qu'ils avaient puis ce qu'ils ont fait, c'est de prendre de la place au plan économique, c'est de devenir des leaders puis de prendre beaucoup de place sur les marchés un peu partout à travers le monde. Ça, c'est sûr. Mais ce que Trump ramène là avec l'idée de acquérir le canal de Panama, acquérir le Groenland, annexer le Canada, ça c'est une nouveauté là. Puis je pense que personne s'était imaginé annexer le Canada avant Trump. Là. Ça fait depuis 1812 là que la guerre de 1812 que c'est dans l'esprit de personne.
Là. Est-ce qu'on serait en fait trop riche de nos matières premières, de notre eau douce? Je compare avec Zelensky. Bon, c'est sûr que Zelensky est dans une situation un peu plus dramatique que la nôtre, puisque ça fait trois ans que son territoire est en guerre. Lui, il est rendu qu'il commence à négocier ses terres rares en échange d'une protection des Américains. Mais est-ce que, quelque part, c'est un peu le même schéma dans lequel on va vivre, dans le sens qu'on a tellement de richesses dans notre sol, on a de l'eau douce, qu'on va essayer de négocier une protection?
Moi, je pense que... On a été paresseux depuis une trentaine d'années, depuis même une cinquantaine d'années. Le Canada est très richement doté. Le Canada a beaucoup d'eau douce. Le Canada a beaucoup de ressources naturelles. Le Canada a beaucoup de bois. Le Canada a du pétrole. On a une grande, grande capacité de production d'hydroélectricité. On a été paresseux. On a été paresseux parce que pour nous, c'est facile de faire du commerce international avec les États-Unis. C'est un immense partenaire géographique continental. C'est notre voisin terrestre. C'est facile d'envoyer des camions chez eux. C'est un pays qui est preneur de toutes les ressources naturelles qu'on a à vendre. C'est un pays qui est preneur de tous les intrants. Les intrants, c'est tout ce qui sert dans les chaînes de production américaines. On leur fournit l'énergie. On leur fournit l'acier. On leur vend pas des produits transformés avec valeur ajoutée faits d'acier. On leur vend l'acier. Mm-hmm. On leur vend pas des produits faits d'aluminium. On leur vend l'aluminium. Et c'est eux qui font le profit. On leur vend le bois. On leur vend des tas de choses comme ça. L'autre élément qui me fait dire qu'on a été paresseux, c'est que on a profité de notre dollar, notre devise monétaire, qui est faite pour l'exportation. Alors, on l'a eu facile. On a eu toujours accès au marché américain en vendant des choses sans faire d'efforts. On transforme pas, on donne pas de valeur ajoutée à ce qu'on vend. Même le pétrole, vous savez, on vend du pétrole brut aux Américains. Alors, moi je suis de ceux qui disent, il y a deux choix. Soit on décide qu'on fait la transition énergétique, qu'on veut se sortir des combustibles fossiles et qu'on va arrêter de vendre du pétrole. Ou alors, si on décide qu'on vend du pétrole, assumons. Et si on assume, ben vendons le pétrole raffiné puis profitons de l'immense marge de profit du pétrole raffiné. Faisons comme les Norvégiens qui vendent du pétrole raffiné, qui mettent les profits dans un fonds souverain puis qui engrangent des sommes colossales pour l'État avec ça. Nous, on est comme entre les deux. On est un peu paresseux. On vend le pétrole, mais on le vend brut. Puis on laisse les Américains le raffiner puis nous le revendent avec la marge de profit de leur côté. Donc, il est temps qu'on revoie un peu notre politique industrielle, puis qu'on décide qu'on fait un peu de fric avec toutes les ressources qu'on a. On est tellement richement doté qu'on ne s'est pas donné la peine de réfléchir à tout ce qu'on serait capable de faire avec ce que nous avons à nos pieds.
Donc, on est en fait à la croisée des chemins sur pas mal d'enjeux politiques et économiques.
Oui.
Le Canada aussi nous dit depuis quelques semaines faut casser les barrières interprovinciales, faut aller exporter en Europe. Est-ce que tout ça est réaliste?
Abattre les barrières au commerce entre les provinces, oui, c'est réaliste. On le fait en partie. Il faut savoir qu'il y a un accord de libre-échange canadien qui a une trentaine d'années, mais qui a été rénové il y a à peu près 12-15 ans. Et cet accord-là, il a aplani beaucoup de barrières au commerce entre les provinces canadiennes, mais il n'a pas tout fait. Il y a encore des choses qu'on pourrait faire pour augmenter le commerce entre les provinces canadiennes, d'une part. Vers l'Europe, on pourrait certainement vendre plus vers l'Europe. Il faut savoir que les Européens profitent beaucoup plus de la ECG que nous. La ECG, c'est l'accord de libre-échange qu'on a signé avec l'Union européenne et qu'on applique depuis 2017, depuis bientôt 8 ans. Et les Européens en profitent beaucoup plus que nous n'en profitons. Et là encore, on a peut-être été... J'ose le dire, là, peut-être un peu paresseux. On profite pas assez de cet accord de libre-échange. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile faire le commerce avec l'Union européenne. Ils ont toute leur normativité qui est exigeante et ils sont pas des commerçants commodes. Il faut satisfaire à beaucoup de standards, à beaucoup de normativité, beaucoup de normes, beaucoup de règlements quand on vend en Europe. Mais on est capable de le faire. Nos PME sont tout à fait capables de le faire. Puis on pourrait vendre davantage en Europe aussi.
Et pour conclure, en fait, on note partout dans le monde une poussée d'une part de l'extrême droite, du moins des autocrates, des extrêmes, extrême droite, extrême gauche, mais plus extrême droite en ce moment. Dans plusieurs pays, ça semble être la même chose aux États-Unis aussi, où les choses semblent s'enligner vers des choses moins démocratiques. Est-ce que c'est le cas d'une part? Et est-ce que, vous nous parliez en début d'entrevue des élections de mi-mandat qui sont très importantes aux États-Unis? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir un démantèlement un peu de tout ça et que la démocratie est-elle en danger, en fait, aux États-Unis?
Moi, je suis inquiet pour la démocratie aux États-Unis. Je constate que le respect des institutions est en chute libre. Et il est en chute libre chez l'élite, chez les gens qui sont au pouvoir. Mm-hmm. Le président lui-même démantèle beaucoup de choses. Il mandate des gens comme Elon Musk pour faire des ponctions de données dans les appareils d'État. On démantèle USAID, on démantèle des tas de choses. Vous aurez peut-être remarqué, le président avait même mandaté son fils à un moment donné pour aller négocier avec le Groenland. Mais son fils, de qui tient-il le mandat? Quelle est son autorité? De quel droit ce serait lui? Donc, j'avoue que la démocratie aux États-Unis m'inquiète un peu. Puis j'ai des collègues américains que j'ai rencontrés pas plus tard que la semaine dernière qui sont des politologues qui me disent la même chose. Ils sont inquiets pour la liberté d'expression même aux États-Unis.
Et est-ce qu'il y a des mouvements qui... Ben, vous parlez avec des gens sur place, est-ce qu'il y a des mouvements qui commencent à naître ou pour l'instant tout le monde se cache un peu et attend de voir?
C'est-à-dire que oui, les mouvements commencent à naître, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit long. Ce sera pas, c'est pas demain la veille là que les gens vont commencer à sortir dans les rues puis à manifester. Mais on est à peu de choses de l'allumette là ou de l'étincelle, je devrais dire. On est à peu de choses de l'étincelle qui va peut-être faire que les gens vont réagir. Il y a quand même une bonne part de la population aux États-Unis qui accepte mal les politiques économiques, le démantèlement de l'État, le fait que des médias traditionnels aient plus accès à la Maison-Blanche. Il y a beaucoup de choses qui commencent à heurter plusieurs clientèles électorales, pour le dire comme ça. Et peut-être que le nombre va finir par jouer, puis on va finir par entendre un peu plus les citoyens américains manifester leur mécontentement. Mais ce ne sera pas rapide. J'ai pas l'impression que ce sera rapide.
Monsieur Ouellette, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé.
Ça me fait grand plaisir.